divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Michel Leduc et Emmanuel Huysmans-Perrin. Aujourd'hui, à l'antenne de l'Union rationaliste, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Leduc, physicienne, directrice de recherche émérite au CNRS, directrice de collection Savoirs actuels et Introduction A, co-rédactrice en chef de Raison présente et membre très active de l'Union rationaliste. Bonjour Michel.
Bonjour Emmanuel.
Et un jeune enseignant-chercheur, physicien lui aussi, qui enseigne à l'École Polytechnique où il dirige le programme de formation sur l'énergie et également chercheur à l'Institut du photovoltaïque d'Île-de-France et également membre de l'Union rationaliste. Daniel Suchet, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Vous avez collaboré ensemble à un livre, une introduction à l'énergie solaire photovoltaïque, publié dans la collection que vous co-dirigez, Michel Leduc, avec Michel Le Bellac, aux éditions EDP Sciences. Je vous laisse la parole à tous les deux pour nous apprendre ce que nous pouvons attendre de l'énergie solaire ou photovoltaïque à l'heure où nous touchons aux limites du système des énergies fossiles.
Bonjour Daniel. La première question d'actualité va de soi. Après les travaux du GIEC et les discussions de la COP28, le monde est convaincu qu'il faut diminuer le recours aux énergies fossiles et développer les renouvelables. Alors, pourquoi pensez-vous que les ressources du soleil offrent des perspectives clés pour l'électricité et pour l'énergie ?
Je crois effectivement que le solaire est une clé majeure de l'avenir. Et ça vient d'une analyse des ordres de grandeur. Il est évident que nous avons besoin d'énergie pour le fonctionnement des sociétés et que nous allons aller vers une augmentation croissante des besoins d'énergie, malgré la sobriété énergétique qu'il faut mettre en avant, malgré l'efficacité énergétique qu'il faut également développer. La première énergie, évidemment, la meilleure est celle qu'on n'utilise pas. Mais l'augmentation de la qualité de vie mondiale, qu'il faut absolument souhaiter, va aller de pair avec une augmentation de la consommation énergétique. Or aujourd'hui, 80% de cet approvisionnement énergétique vient des ressources fossiles. Il y a donc un défi gigantesque. Et quand on se tourne vers les perspectives de solutions, le solaire arrive très rapidement en tête, pour une raison très simple. La ressource solaire, c'est plusieurs milliers de fois le besoin énergétique total de l'humanité. Alors certes, la ressource solaire pose des questions, on aura l'occasion de les évoquer. C'est une ressource qui est diffuse, c'est une ressource qui est non pilotable, qui peut être intermittente. Mais c'est littéralement une manne énergétique qui tombe du ciel. Et donc il s'agit de réussir à en faire quelque chose. On peut en faire plusieurs choses. On peut en faire de la chaleur, c'est l'énergie solaire thermique. On peut transformer cette chaleur, quand elle est à haute température, en électricité. C'est le solaire à concentration. Ou on peut en faire de l'électricité directement. C'est l'enjeu du solaire photovoltaïque, qui aujourd'hui, dans ses différentes filières, et la filière énergétique avec la plus forte croissance.
Alors, je voudrais bien que vous nous expliquiez pourquoi, comment, quels sont aujourd'hui l'état des performances techniques. Parce qu'on se demande si ça évolue, mais est-ce que ça va encore évoluer ? Par exemple, où en sommes-nous pour les rendements ou pour, par exemple aussi, les matériaux des panneaux solaires ?
Si j'essaie de suivre un panneau un peu au cours de sa vie, la première étape, c'est la question de la fabrication du panneau. Aujourd'hui, 95% du marché des photovoltaïques est constitué d'une technologie qui est à base de silicium. Ce silicium, aujourd'hui, principalement, passe par la Chine. Donc on est sur une culture, une monoculture industrielle, une technologie et un pays majoritairement producteur. C'est intéressant de voir l'évolution des choses dans le temps. Il y a la question des performances actuelles et de la façon dont on y est arrivé. La production des panneaux aujourd'hui permet d'atteindre des rendements commerciaux, ce qu'on peut acheter dans le commerce, de l'ordre de 20 à 22% de rendement, avec des coûts de production qui ont été divisés par à peu près 200 sur l'échelle des quelques dernières décennies. C'est donc une dimension industrielle extrêmement dynamique. Au-delà des coûts industriels, des coûts économiques, il y a des coûts environnementaux également. La question des matériaux que vous avez évoquée. Sur les panneaux silicium, les matériaux mobilisés, c'est principalement du silicium, qui est une ressource abondante. Les ressources les plus critiques sont celles, sans doute, de l'argent qu'on utilise pour les contacts, Il y a une consommation d'aluminium, de verre, de cuivre. On a peu des matériaux très critiques qu'on évoque souvent dans les enjeux de transition énergétique. Je parle ici de la fabrication des panneaux solaires, à proprement parler. Il y a aussi un coût énergétique. Fabriquer un panneau coûte de l'énergie. Le panneau va mettre à peu près, en fonction de là où il est installé, environ une année à produire autant d'énergie qu'il aura coûté à sa fabrication. Alors si je suis ensuite le panneau qui a été fabriqué, qui est installé quelque part, ce panneau va produire de l'énergie pendant à peu près 25 ans. Un des intérêts d'un panneau photovoltaïque par rapport à d'autres modes de fabrication, c'est que il n'y a pas de pièces mobiles, il y a relativement donc peu d'usure mécanique du panneau, il n'y a pas d'apport de carburant au-delà du soleil. Puis se pose ensuite la question de la fin de vie des panneaux solaires et de leur recyclage éventuel. On sait aujourd'hui recycler l'essentiel de la masse d'un panneau solaire, mais il faut bien identifier que l'essentiel de la masse, c'est le tour en aluminium et c'est le verre qui est utilisé pour son encapsulation. Ce sont donc des matériaux recyclables, mais ce n'est pas les matériaux les plus actifs du panneau solaire. La question du recyclage des cellules solaires en elles-mêmes est une question qui va émerger au fur et à mesure que les panneaux arrivent en fin de vie. La preuve technique du recyclage de cellules solaires en nouvelles cellules solaires a été apportée. Donc on sait que c'est techniquement faisable, ce qui rendra la filière du recyclage viable à terme. C'est des questions de développement industriel. Je finirai ce tour d'horizon en situant où on en est aujourd'hui. Il importe toujours sur ces questions de distinguer la production d'électricité et la part d'énergie totale. La production électrique aujourd'hui, c'est à peu près 20-25% de notre consommation d'énergie. Et dans cette production électrique, le solaire, c'est à peu près 4 à 5% de la production. Ce sont des dynamiques extrêmement rapides. Il y a une dizaine d'années, c'était beaucoup moins que ça, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.
Oui, les défis du solaire, on sait bien qu'ils sont quand même nombreux. Hein. On entend beaucoup parler de l'intermittence, par exemple. C'est un système qui marche quand il y a du soleil, mais il ne marche pas la nuit, il ne marche pas quand il fait mauvais temps. Bon. Il y a les problèmes de coûts que vous avez un petit peu évoqués, qui s'améliorent, mais tout de même. Et puis, il y a la question de la dépendance à la Chine, quand même, puisqu'on achète ces panneaux, en tout cas, pas tout fait, mais du moins les cellules à la Chine, et la question de la souveraineté nationale, quand même, dans tous les esprits. Alors, quelles sont les solutions que vous envisagez, ou qui sont envisagées en général, pour y remédier ?
Il y a une diversité de solutions qui s'adressent à une diversité de défis. Il y a des défis au niveau technique. Il s'agit de continuer à améliorer les performances des cellules. Des cellules qui fonctionnent avec un rendement plus élevé, même si elles sont plus chères à produire, entraînent une production énergétique plus abordable. Et c'est évidemment un enjeu de réussir à faire l'énergie la moins chère possible. L'Agence internationale de l'énergie considère aujourd'hui que dans certaines situations, la production solaire est la production électrique la moins chère, parmi toutes les options technologiquement disponible. Ce développement technique, c'est aussi des questions d'évolution industrielle que j'ai déjà commencé à évoquer. Et on sent bien sur les enjeux de souveraineté que vous soulevez qu'on ne peut pas laisser simplement les règles du marché être à l'œuvre et qu'il y a des enjeux de choix politiques à faire pour localiser une industrie et une production industrielle en Europe. Il y a des décisions qui sont prises dans cette direction-là et qu'il faut absolument continuer et renforcer. Cette question, c'est à la fois l'enjeu des dépendances, mais c'est aussi le contrôle des modalités de production, des conditions sociales, des conditions environnementales dans lesquelles les objets sont produits. Et c'est aussi la possibilité d'aller vers une production industrielle un peu plus diverse qui peut viser d'autres applications que la seule production ou l'unique production énergétique. Et je pense ici à des panneaux solaires qui peuvent être utilisés pour l'intégration dans des bâtiments avec des propriétés mécaniques particulières, des panneaux solaires avec une esthétique particulière, des panneaux solaires flexibles qui peuvent être utilisés pour des voiles de bateaux, par exemple. Toute cette diversité-là, qui va sortir de la monoculture que j'évoquais au départ, vise non seulement à produire de l'énergie, mais aussi à atteindre d'autres objectifs. Le dernier défi que je soulèverais est celui du réseau électrique que vous avez commencé à esquisser, celle de l'intermittence. La question du réseau électrique est une question de l'intégration de l'énergie solaire dans le réseau électrique est une question qui se décline sur beaucoup d'ordres d'échelle de temps. Il y a des questions de fluctuations rapides, c'est des questions d'intermittence, il y a des questions de pilotabilité, il y a des questions de variations saisonnières, on produit plus l'été et moins l'hiver évidemment. chacune de ces échelles de temps aujourd'hui a des perspectives de réponses techniques. Aucune réponse technique ne répond à tout à la fois, évidemment. Mais au-delà de la réponse technique, il y a aussi des vrais enjeux de changer peut-être ce que nous attendons du réseau électrique et du système électrique. Si nous voulons garder exactement le même service en changeant complètement la façon de produire de l'énergie, alors il va falloir mettre quelque part au milieu un système d'adaptation, des batteries, du stockage et tout un ensemble d'objets technologiques qui auront un coût très important.
Oui, un petit mot sur le stockage tout de même. Oui.
Alors la question du stockage à nouveau se décline sur une diversité d'ordre sur une diversité d'échelles de temps. On peut penser à la question des batteries pour des variations qui sont assez rapides et régulières. On ne peut pas stocker avec des batteries les variations saisonnières. Alors à ce moment-là, on envisage d'autres perspectives. Par exemple, du stockage sous forme de gaz. Mais à nouveau, la question du stockage doit se poser en complément de la question de l'attente du service qu'on attend.
Oui, alors justement, je voudrais vous poser un petit peu des questions là-dessus parce que on voit bien qu'il y a un problème d'acceptation du photovoltaïque par nos concitoyens. Et ça a été beaucoup souligné dans le colloque qu'a organisé Daniel Linco au Collège de France sur le solaire, justement, il y a 2 semaines. Et on a vu des sociologues expliquer que beaucoup de nos concitoyens, la moitié des Français, ne sont pas très prêts, tout à fait prêts à considérer que le photovoltaïque est une bonne solution. Et il faut, comme vous le disiez, adapter la consommation aux spécificités de la production. Alors comment, ce sont des défis sociétaux, comment est-ce que vous les envisagez ?
La question de l'acceptabilité est une question délicate. On risque de la formuler en se disant qu'on arrive avec des solutions toutes prêtes et qu'il faudrait faire en sorte que les gens les acceptent. Et je pense que le solaire, exactement. Et je pense que le solaire est intéressant du point de vue énergétique parce que c'est une énergie qui peut être à l'échelle citoyenne. C'est une énergie dont on peut se saisir en tant que citoyen, que ce soit par des associations, par des collectifs ou même à l'échelle individuelle. Éventuellement dans l'autre sens. On commence à l'échelle individuelle, on s'engage dans des collectifs, on se mobilise à plusieurs. C'est une des seules énergies dont on est capable d'acheter les moyens de production qui sont modulaires. C'est les mêmes panneaux qu'on utilise, qu'on en installe 3 sur son toit ou 10 000 sur une ferme. Et ce sont des objets qui donnent des occasions de se mobiliser autour des questions d'énergie. Tout d'un coup, on se pose des questions. C'est quoi les bonnes unités? C'est quoi les bons ordres de grandeur? C'est quoi les acteurs qui sont impliqués dans un projet? Et je pense que c'est une porte d'entrée pour que les citoyens, c'est pas tant qu'ils acceptent des solutions techniques, mais qu'ils sont en mesure de se saisir de la question et de devenir acteurs dans cette direction-là. Donc je pense que le solaire est une porte d'entrée vers les questions d'énergie qui est assez formidable. Et dans l'autre sens, je pense que le solaire a absolument besoin du soutien citoyen pour se développer de la façon qui me semble la plus souhaitable. Je m'éloigne là de mon expertise et je donne davantage mon expertise et plus mes perspectives. Si on reste sur les mêmes dynamiques de marché, on va se retrouver avec les mêmes genres de problématiques. On a besoin que le solaire soit développé avec des considérations écologiques, avec des considérations sociales qui vont changer la façon dont les panneaux vont être produits, dont les coûts vont être considérés. Ça passe par une décision politique qui doit être soutenue par un soutien citoyen.
Oui, ça me semble bien clair, ou plutôt bien difficile. Je voudrais quand même terminer, c'est une dernière question, si vous me permettez, un peu inattendue. Vous avez quitté le domaine de la physique quantique, qui est celui que je connais, après une thèse brillante dans un très bon laboratoire. Et maintenant, vous vous êtes, il y a une dizaine d'années, consacré aux recherches sur le photovoltaïque. Alors, pouvez-vous commenter ce choix personnel ? Qui me semble recouper des changements, des bifurcations rapides de carrière qu'on voit s'opérer chez des chercheurs, même à mi-carrière.
C'est un mélange de choses. C'était d'abord une curiosité, une envie, bien sûr, l'envie de s'impliquer sur des questions et d'y consacrer une force de travail, et pas simplement mon activité le soir et le week-end. C'est aussi le moment où je me suis rendu compte que derrière ces questions d'énergie et d'énergie solaire, il y avait des questions scientifiques qui me parlaient et dans lesquelles qui me rendaient curieux, que j'avais envie d'aller explorer. Je suis très convaincu de l'importance de garder une recherche fondamentale et je pense que l'expérience que j'ai eue dans ma formation initiale, dans la thèse que j'ai eu l'occasion de réaliser en mécanique quantique, me permet d'amener dans le domaine du solaire une perspective fondamentale qui est peut-être moins souvent présente. et dans l'autre sens, d'amener vers les questions fondamentales les problématiques appliquées, qui sont celles du domaine. Je suis convaincu que c'est à la rencontre entre les mondes qu'il se passe aussi les choses intéressantes.
Oui, puis je pense aussi que vous aviez envie de travailler pour le bien-être de la société, hein, et pour améliorer, essayer d'améliorer les défis aussi du climat et d'autres défis qui nous menacent.
Bien sûr, je suis aussi convaincu que sur ces questions d'énergie solaire, la dimension de la recherche que je mène est un des aspects de la question, mais imaginez que c'est par la recherche qu'on va résoudre le problème, ce serait imaginer une solution technologique à venir qui nécessiterait de ne pas changer le reste. Or, je crois au contraire que la solution ne viendra pas seulement de la technologie, même si la réflexion scientifique que nous menons est critique dans ces questions.
Oui, il y a la politique, hein, bien sûr.
Et la citoyenneté. C'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Daniel Suchet, Michel Leduc, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Je renvoie donc aux deux ouvrages coécrits par Daniel Suchet, Une introduction à l'énergie solaire photovoltaïque aux éditions EDP Sciences et un ouvrage en libre accès intitulé Le solaire photovoltaïque en France, réalité, potentiel et défis, que vous pouvez retrouver sur le site solairepv.fr. Sur France Culture, je remercie Luc Jean Reynaud, Nicolas Bonnet et Claire Poinsignon. À l'Union Rationaliste, je remercie Roland Lemoine qui tient admirablement le site de l'Union Rationaliste. Et je rappelle que l'Union Rationaliste a toujours besoin de militants. Elle défend, je le rappelle, la laïcité, elle lutte contre toute forme de désinformation, elle promeut l'esprit et les méthodes des sciences. Si ce combat est aussi le vôtre, comme nous avons besoin de renfort, nous serions heureux que vous nous rejoigniez et participiez à nos colloques et à nos réunions en allant aussi sur le site de l'Union Rationaliste. Et je vous invite donc à nous rejoindre. Je vous dis au mois prochain.